Pauline Pucciano, La cité hantée, chapitre 10, Réunion du conseil. La salle du conseil était encore vide à cette heure. Aumont y était venu en avance et savourait quelques instants de calme avant l'arrivée des autres. La concentration était essentielle pour animer ce genre de réunion, et il ne l'obtenait plus qu'après des exercices de relaxation. Les autres allaient arriver, pleins d'élan, de paroles désordonnées, d'idées contradictoires, et il faudrait démêler, sélectionner, trancher. Le travail du gouvernement était infiniment difficile. Le conseil se réunissait 10 fois par lunaison, à un rythme soutenu. Aumont en avait été le premier instigateur au lendemain de la Révolution, et avait choisi pour représenter Albâtre des gens de tous horizons qui ne parlaient pas le même langage et n'avaient pas la même conception du pouvoir. Et ce pandémonium ne ressemblait en rien à ce qu'il avait pu connaître jadis dans les coulisses de la guilde du pouvoir. À Eleanor, bien sûr, siégeait avec lui depuis le début, et cela n'avait pas été sans mal, car les premiers mois, elle n'était plus elle-même et semblait se désintéresser totalement d'Albâtre. Mais il avait réussi à la remettre en selle, et elle était aujourd'hui son soutien le plus sûr, le plus avisé. Elle ne parlait jamais que lorsque c'était nécessaire, et toujours avec une hauteur et une profondeur appréciables. L'éthique était son principal souci. Puis il y avait Sadric, un ancien de la guilde du commerce, qui s'était admirablement adapté à la nouvelle Albâtre et fourmillait d'idées et d'entreprises diverses. Pour achever de représenter l'ancienne Hauteville, Aumont avait également convoqué Jemira, une vieille conservatrice de la guilde de la justice, droite et sévère comme le livre des lois, et qui soupirait à chaque nouvelle entorse à l'ordre. Du côté ville basse, bien que ces dénominations fussent aujourd'hui obsolètes, Aumont avait d'abord recruté l'un des sergents de Keller, qui avait fait preuve de courage et de discernement pendant la Révolution. Fly, toujours très attaché à Eleanor, et qui la contredisait rarement, mettait souvent en avant des détails pratiques, parfois triviaux, mais essentiels, qui échappaient à l'intelligence plus éthérée des natifs de la Hauteville. Aumont avait, en partie pour respecter la parité entre les hommes et les femmes, qui lui paraissait capitale, mandé Daphnae, un choix qu'il regrettait un peu aujourd'hui, car elle lui paraissait plus dévouée à sa propre cause qu'à la cause d'Albâtre. Cependant, sa fierté susceptible, son impression fréquente d'être flouée par les natifs de la Hauteville et l'espèce de critique permanente qu'elle leur opposait, si elles étaient parfois lassantes, étaient aussi fort utiles. Elles représentaient en effet toute une partie de la population, en incarnaient les griefs, les opinions parfois irrationnelles, les centres d'intérêt. De tous, c'était elle qui était le plus dans l'air du temps, et cela était précieux. La seconde native de Basseville était une femme plus âgée, Morga, qui avait travaillé toute sa vie dans les manufactures de la guilde des tisserands, et dont les vieilles mains calleuses et déformées par l'outil avaient été si imprégnées de teinture qu'elles conservaient encore, à la lumière du soleil, des teintes bleuâtres indélébiles. Elle était une admiratrice passionnée d'Eleanor, une fervente de la Révolution, et vivait la nouvelle Albâtre comme un rêve miraculeux donné par le destin à ses vieux jours, dont elle ne voulait pas perdre une miette. À ses côtés, à la dernière place, qui eût normalement dû échoir à Keller, siégeait Fabrice, un homme d'une 40aine d'années, qui n'avait pas pris part à la Révolution et qui avait été contremaître pour la guilde des orfèvres. Il avait servi loyalement la guilde et n'avait pas pris les armes contre la Hauteville, mais il prenait très au sérieux la charge qu'on lui avait confiée et ne sortait de sa réserve que lorsqu'un point lui paraissait avoir été oublié. 4 hommes, 4 femmes, de tous âges, 4 qui avaient pris part à la Révolution et 4 qui l'avaient subie, 4 natifs de Hauteville et 4 natifs de Basseville, cette combinaison lui avait paru la meilleure et jusque-là, malgré les discordes, le conseil s'était montré à la hauteur de sa tâche monumentale. Daphnae arriva la première et rejoignit Aumont à la fenêtre, non sans lui rappeler par un frôlement provocateur la nature charnelle de leurs liens, ce qui dérangea Aumont dans sa concentration. Le bâtiment qu'ils occupaient se trouvait sur la place ovale, et ils pouvaient contempler, à côté de la grande statue, la démarche gracieuse d'Eleanor. Laquelle est de chair, laquelle est de pierre ? Souffla ironiquement Daphnae. Elles sont toutes les deux faites d'albâtre, répondit Aumont, piqué. Daphnae recula, un sourire amusé aux lèvres, et s'assit théâtralement dans le siège d'Aélénor. Es-tu amoureux d'elle, pour prendre ainsi sa défense chaque fois qu'on égratigne son marbre ? Nous ne sommes pas là pour badiner, Daphnae. Ah ? Et ne te méprends pas. Mon éducation m'a appris à faire la distinction entre le désir, l'estime et l'amitié. Quant à l'amour, elle m'a appris à m'en défier. Je vois. Je joue donc le rôle du désir ? Aumont ne répondit pas, furieux que sa concentration si récalcitrante ait volé en éclats aussi rapidement. Aélénor arrivait de toute façon, suivie de près par Morga et par Sadric. Après les salutations d'usage, Daphnae quitta le siège d'Aélénor et le lui rendit avec une politesse outrée. Les autres ne tardèrent pas à arriver à leur tour et le conseil commença. « Comme de coutume, commença Aumont, je propose un tour de table afin de déterminer l'ordre du jour. Que chacun propose un sujet de préoccupation qui lui semble mériter débat. Fly, il y a des terres cultivables autour d'Albâtre et je me disais qu'il serait peut-être plus intéressant de les cultiver que de dépendre des autres cités pour notre pain quotidien. Sadric, il faut prendre une décision concernant l'argent, décider exactement de ce qui se monnaie, de ce qui ne se monnaie pas. Nous sommes dans une espèce d'entre-deux qui ne convient à personne. Morga, rien de particulier. Jemira, les délits mineurs se multiplient. Il faut se hâter d'écrire un nouveau livre des lois et d'organiser une justice. Daphnae, j'en ai assez de voir les natifs de Hauteville traîner sans rien faire dans les rues. Pourquoi les entretenir dans l'oisiveté ? Fabrice, rien de particulier. Aélénor, j'ai deux sujets à proposer. Sélectionnez le plus important, dit aimablement Daphnae. Comme Morga et Fabrice se sont abstenus d'en proposer, j'ose espérer que vous écouterez les deux, qui sont de première importance. Allez-y, dit Fabrice. D'abord, j'ai une idée de l'endroit où pourrait se cacher la Guilde de l'Ombre. Ensuite, j'ai des raisons de croire que le pouvoir des papillons s'amenuise et que l'esprit est à nouveau utilisable par certains. Il faut que nous parlions de l'esprit. Il y eut d'abord un silence, puis un murmure un peu confus. Qu'entendez-vous par « utilisable par certains » demanda Aumont avec anxiété. Aélénor parut un peu embarrassée. « Devrions-nous comprendre par certaines ?» insinua Daphnae. « Les jours de pluie, les papillons se cachent, et ma pierre frontale a plusieurs fois frémi à mon insu. L'esprit n'est pas totalement engourdi comme il l'a été dans les premiers temps. « Pourquoi vous et pas les autres ?» demanda Sadric avec hauteur. « Je ne suis pas la seule. Faites l'essai si vous ne me croyez pas. » La vieille Jemira hocha la tête. « Je l'ai senti, moi aussi. » Cet arrêt fit taire les incrédules. « Je dois confesser, reprit Aélénor, que je ne me suis pas arrêtée là. J'ai essayé d'utiliser l'esprit, pour tenter de joindre mentalement Keller, s'il faut tout vous dire. « Avez-vous réussi ?» demanda Fly. Elle secoua la tête en guise de réponse. « Mais j'ai réussi à utiliser l'esprit. Plusieurs minutes. C'était... » Elle hésitait à formuler la fin de sa phrase. « C'était ?» demanda impitoyablement Daphnae. « C'était bon, dit-elle, comme de recouvrir l'usage des jambes quand on a été paralysé. » Seuls les natifs de Hauteville comprirent ce qu'elle voulait dire, et elle savait qu'au fond d'eux, ils ne la blâmeraient pas pour cet accès de sincérité. Il était impossible, inconcevable, qu'ils ne ressentissent pas tous, le plus cruellement, la même frustration exaspérée. « Je vois très bien où vous voulez en venir, » dit Daphnae d'un air énergique, « et cela est très dangereux. Vous savez pertinemment pourquoi on a interdit l'usage de l'esprit. Il n'y a aucune égalité possible si l'esprit revient dans la partie. » « Et pourtant, » dit Aélénor, « si le pouvoir des papillons décroît, cela finira par arriver, » dit-elle, « qu'on le veuille ou non. » Les spiritualistes ne semblaient pas affectés par les papillons lorsque je leur ai rendu visite. Ils utilisaient l'esprit tout à fait normalement. Ce qui signifie qu'ils avaient fini par s'immuniser contre leur effet, conclut Sadric. Et bien sûr, vous voudriez hâter ce moment, dit brusquement Daphnae. C'est dangereux, ça, vous pourriez à nouveau nous contraindre, observa Morga. C'est justement parce que c'est dangereux que nous devons en parler, observa le prudent Fabrice. « Eh bien, parlons-en, murmura Daphnae en lançant à Aumont un regard courroucé. « Aumont, votre opinion ?» Si l'esprit doit être à nouveau disponible, il faut impérativement réussir à le partager, dit-il après un silence. Exactement, dit à Eleanor. Éduquer tout le monde à son utilisation, en faire une richesse commune et non plus un instrument de domination. Mais certains citoyens seront plus habiles que d'autres, objecta Fabrice. C'était le cas en Hauteville, répondit Cedric. Mais cela ne posait pas de problème que lors des tentatives de contrainte. « Que nous allons sévèrement réprimer, » termina à Eleanor. « Tout l'usage du verbe ?» demanda Jemira. « Il faut réfléchir, » dit à Eleanor. « On pourrait imaginer que l'utilisation de l'esprit soit à nouveau rendue légale pour toutes les applications non-verbales. Contrôle de soi, apaisement de la douleur, résistance à l'effort, contrôle du sommeil, gestion de la colère. » « Acuité accrue de la précision, de la concentration, » murmura Aumont d'une manière presque hypnotique. Ce serait tellement commode. Et nous autres, nous apprendrons tout ça ? Demanda Morga. Oui, il le faut. Les enfants d'abord. Les enfants doivent être éduqués tous de la même manière, et tous de la manière la plus exigeante. Il faut qu'à la prochaine génération, il n'y ait plus de différence entre les anciennes parties de la ville. Magnifique, ironisa Daphnae. Et nous, aujourd'hui ? Il n'est pas trop tard pour apprendre, dit à Eleanor, et je ne vois pas d'autre moyen. Cela va provoquer des perturbations importantes, prévint Cedric. Et pour le verbe, que fait-on pour le verbe? Je ne sais pas, avoua Eleanor. Il faut interdire le verbe, protesta Daphnae. Aumont réfléchissait intensément, mais son cerveau ne gérait que partiellement la somme des paramètres en présence. La perspective de retrouver peut-être l'esprit le rendait presque fou de désir et d'impatience. « Je vous ferai remarquer, dit Fly, qu'il y a un problème technique à votre histoire d'éducation. »« Lequel ?»« Admettons qu'on veuille commencer l'éducation à l'esprit dès demain. Les papillons sont encore là, ils empêcheront la mise en pratique. Et si on commence par supprimer les papillons ?»« Comment être sûr que les hauts citoyens ne vont pas en profiter pour contraindre tout le monde ?» acheva Morga. « Il faut dégager une zone d'enseignement et laisser les papillons dans le reste de la ville, » dit Aumont. « Et pour le verbe ?» demanda à nouveau Daphnae. « Le verbe vous serait très utile, » observa Eleanor. « Il subjuguerait vos spectateurs au théâtre. »« Je n'ai pas besoin de cet artifice, merci beaucoup. »« Il faut interdire le verbe, » trancha Jemira, « au moins temporairement et de manière très stricte. Nous le réintroduirons plus tard. »« Faut-il prévoir des sanctions pour les utilisateurs abusifs ?» demanda Fabrice. « Des travaux d'intérêt collectif pour une utilisation simple. » « Et pour une tentative de contrainte d'un haut citoyen sur un bas citoyen ?» demanda Morga. « Il n'y a plus de haut ni de bas citoyen, » rectifia Aumont. « Je m'entends, » dit Morga, « et vous aussi vous m'entendez, nous sommes entre nous. »« Il faut sévir davantage, » dit à Eleanor. « L'apostasie ?» suggéra perfidement Daphnae. « Et pourquoi pas ?» répliqua Eleanor. « Une privation de liberté et le bannissement en cas de récidive. »« Je vous propose de nous entendre sur ce principe, » dit Aumont. Une autorisation de l'esprit pour les applications non-verbales, une éducation générale des natifs de Villebasse. Obligatoire ? Demanda Fabrice. L'éducation ? Oui, certains citoyens ne voudront pas perdre leur temps à ces fariboles. Mais il s'agit d'un enjeu de pouvoir extrêmement important, dit Jemira. Je sais, c'est pourquoi je vous demande s'il faut rendre cette éducation obligatoire. Pour les enfants et jusqu'à 20 ans, je dirais oui, répondit à Eleanor. Tout le monde hocha la tête. « Et pour les autres ?»« Des mesures incitatives ?» proposa Cedric. « Fort bien, » récapitula Aumont. « Une éducation obligatoire pour les jeunes jusqu'à 20 ans, et des mesures incitatives à définir pour les autres. Une interdiction formelle du verbe, sous peine de bannissement. Sommes-nous d'accord sur ces points ?» Les têtes s'inclinèrent en signe d'assentiment, et Aumont eut presque l'impression d'entendre dans sa tête les sifflets graves du forum. « Bien. » Avant de passer au point suivant à Eleanor, veuillez nous donner cette information concernant la guilde de l'ombre. Les frères sombres auraient-ils réapparu ? Non, dit-elle. Mais j'ai appris l'existence d'un réseau de galeries naturelles sous la montagne d'Albâtre. Nous avons trouvé des entrées de grottes très profondes sur l'autre versant. L'existence de ces galeries m'a été confirmée par l'ancien chancelier de la haute école. Sornard devait nécessairement en connaître l'existence. « Cela ne paraît pas de première importance, » dit Cedric. « Laissons les chauves-souris là où elles sont. En effet, dit Aumont, cela ne paraît pas urgent. Toutefois, nous pourrions peut-être organiser des recherches afin de nous assurer qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là. Il vaudrait mieux défricher les terres cultivables, dit Fly. L'un n'empêche pas l'autre, dit Morga. Ce Sornard m'avait l'air d'un diable d'homme, et je dormirais plus tranquille si j'étais sûr qu'il n'était pas là-dessous.
Une petite patrouille ne devrait pas poser de problème, dit Fabrice.
C'est ce que je crois, reprit Aumont, même si je conviens qu'il ne s'agit pas d'une priorité. À qui donnerons-nous le commandement de cette expédition ?
Je veux bien m'en charger, dit Fly, avec quelques hommes.
Merci, dit à Eleanor. Vous passerez à la frontière, Cardone vous accompagnera. Les sujets suivants les retinrent pendant une grande partie de la journée. Il fut décidé, contre l'avis de Sadric et de Jemira, qui arguaient que les citoyens d'Albâtre n'étaient pas des paysans, que plusieurs terres seraient défrichées et mises en culture, afin de limiter les importations de blé et de primeurs. On convint ensuite, après d'âpres discussions, que les prestations médicales, funéraires, l'éducation des enfants, la justice, le génie civil, les rapports sexuels et surtout le droit d'occupation d'un logement ne devaient pas se monnayer en Albâtre et rester soit entièrement gratuits, soit à la charge du gouvernement. Il fallut batailler dur, car Sadric y voyait un frein à la libre entreprise et certains natifs de Basseville un manque à gagner pour nombre de gens. Mais les autres eurent finalement raison de leurs arguments et ne durent leur concéder que le droit de monnayer les œuvres d'art, point sur lequel Daphnae fut intraitable.
L'art et le commerce ne font pas bon ménage, dit Aumont dans une dernière tentative.
Mais les artistes font bon ménage avec l'argent, dit Daphnae. Il fut également décidé ce jour-là que la peine de mort n'aurait pas cours en Albâtre et que le bannissement serait la peine la plus lourde prononcée par la cité. On fit une première ébauche d'une grossière échelle des peines. Les travaux d'intérêt collectif, nombreux, car la cité engageait de nombreux chantiers, étaient combinés à des périodes de privation de liberté. Les amendes furent étudiées, puis abandonnées. On préférait prendre le temps des citoyens, leur force de travail, plutôt que leur argent. Enfin, il fallut s'entendre sur la possibilité de rester oisif dans la ville. Les natifs de Villebasse, sans exception, méprisaient l'inactivité comme la mère de tous les vices. Les natifs de Hauteville, quant à eux, ne vivaient que pour leurs heures de loisirs, qu'ils considéraient bien plus que leur travail comme leur source d'épanouissement. Quelque chose d'irréconciliable semblait ici survenir. « La paresse, disait Morga, y a rien de pire, vous pouvez pas lutter contre. C'est toute une population de paresseux qui font tomber les cités. Le travail, c'est la santé. » Mais allons-nous forcer les gens à fournir une activité ? À qui devront-ils en rendre compte ? Toute personne qui n'est pas employée par quelqu'un ou qui ne s'emploie pas elle-même devrait se mettre à la disposition de la cité. Travaux d'intérêt général ? Il y en a de plus ou moins pénibles et on pourrait réserver les plus pénibles aux délinquants et les moins pénibles aux oisifs.
D'autant que ce ne serait pas forcément des travaux, remarqua Fabrice. Surveiller des enfants, jouer d'un instrument pour distraire les gens dans la rue, tenir la main des mourants, ce n'est pas vraiment du travail, mais c'est utile aux bonnes gens.
Aumont et à Eleanor partageaient sur ce point une même perplexité. Peut-être que ces gens avaient raison, après tout. Peut-être l'oisiveté était-elle ce qui avait vicié Albâtre. Si tout le monde en échange reçoit suffisamment d'obol pour vivre et est logé gratuitement, cela semble juste, remarqua Eleanor. Le travail sera donc obligatoire, demanda Aumont, sous une forme ou sous une autre.
Oui, dit Morga avec entêtement.
Et ils convinrent que les natifs de Hauteville, qui erraient désœuvrés dans les rues, devraient au plus tôt trouver l'emploi qui leur convenait le mieux au service de la cité. Le soleil était presque couché lorsqu'ils se séparèrent, et Aumont, épuisé, raccompagna à Eleanor à la frontière pour boire un vin de cèdre avant de rentrer. Elle fit un détour par le palais du chancelier Ruben, où elle récupéra Artus, et ils furent bientôt attablés face à face, en terrasse, dans les lueurs rougeoyantes de cette soirée de printemps, appréciant tous deux la vue sur la coulée verte de l'ancien canal. Un vaste cerisier en fleurs s'épanouissait au-dessus de leur tête.
Dirigez la cité ne vous épuise-t-il pas, à Eleanor ? Demanda-t-il sans y penser en langue noble.
Si, répondit-elle de même, mais ces choses ont besoin d'être étudiées, dites, faites, nous n'avons pas le droit de nous en détourner.
Ce serait tellement plus facile avec l'esprit, dit-il en souriant.
Parfois, j'ai l'impression d'être la moitié de moi-même.
Et pas la meilleure moitié, ajouta-t-elle en riant.
Ils rirent.
Ne faudrait-il pas un gouvernement légitime ? Demanda-t-il.
Si, sans doute. Mais nous savons que nous sommes honnêtes, dit-elle. Nous ne voulons rien à l'albâtre.
Il faudrait cependant organiser une consultation, un vote. Quand j'y songe, cela me semble si compliqué.
Cela viendra, au mont, et avec l'esprit nous abattrons des montagnes.
Il sourit à cette idée et trinqua avec elle.
Vous croyez que Keller reviendra ? Demanda-t-il doucement.
Oui, dit-elle, je suis presque sûre qu'il est en route.
Mais...
Aumont fut surpris en la voyant s'assombrir.
Sornard reviendra aussi, Aumont, même si tout le monde l'a oublié.
Je n'arrive pas à m'en persuader. Il a pu simplement quitter la ville.
Pourquoi aurait-il fait cela ?
Il a massacré tous les spiritualistes, Aumont, et ils étaient puissants, beaucoup plus puissants que nous. Ce mystère n'est pas résolu.
Je vous admire, dit Aumont. Vous parvenez à vivre en suspens, en attendant des bonheurs et des malheurs à venir, et cela n'a pas l'air de troubler votre instant présent.
En disant cela, il désigna Artus, qui s'était approché de sa mère et dont elle ébouriffait les cheveux avec une tendresse sereine.
« Il suffit de fermer les yeux, dit l'enfant. L'instant présent se rafraîchit et vous voyez le monde tout neuf. »
Aumont et Aelenor échangèrent un regard surpris et amusé. Artus, en fermant les yeux, la tête renversée en direction du cerisier, fit tomber sur eux une pluie de pétales de fleurs.
« Comment a-t-il fait cela ? » demanda Aumont, médusé et couvert de cette étrange neige de printemps.
« Je vous l'ai dit, dit Aelenor, sans pouvoir réprimer un mouvement de fierté. Certains d'entre nous utilisent l'esprit. »